Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la Vie Française, eh bien, dans lequel on va déjà prendre un petit goût d'été grâce à vous, mon cher David Chantrane.
Bonsoir Laurent.
Puisque j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir pour parler des villes impériales et ce que doivent nos villes aux deux empereurs. Et donc nous allons voyager à travers la France, et c'est un peu d'ailleurs un guide finalement ce que vous avez fait.
C'est exactement ça.
Dont nous allons parler. Mmh. Alors, je rappelle mon cher David que vous êtes historien, historien d'art également, directeur des sites patrimoniaux de la ville de Rueil-Malmaison, rédacteur en chef de la revue du souvenir napoléonien, administrateur de l'Institut Napoléon, conseiller pour...
consultant.
Pas tant consultant, oui. Mais pour France Télévisions, décidément. Mmh. Voilà, et auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les villes impériales, les traces de Napoléon Ier et Napoléon III » aux éditions Flammarion. Alors, mon cher David, vous êtes une personne que j'aime recevoir, puisque à chaque fois avec vous, c'est absolument passionnant. Et votre ouvrage est absolument passionnant et très joli, très esthétique. Alors, pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur YouTube, regardez les enfants, ce que David nous a encore servi. Voilà, nous avons à chaque fois, évidemment, c'est très illustré, illustré de façon intelligente. On découvre également des photos de l'empereur Napoléon III. Oui. S'il vous plaît, des photos rares.
C'est vrai.
Vous n'êtes pas allé nous chercher des trucs que le... Enfin, pardon,
oui.
Des trucs, c'est pas très joli. Des photos auxquelles nous sommes habitués.
Et des
voilà.
Documents habituels,
des
c'est-à-dire
documents,
qu'on a...
Oui. Voilà, on va vraiment découvrir. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, cet ouvrage, je le disais, c'est un ouvrage qui est, comme vous, passionnant, mais qui est passionnant parce qu'en plus, nous allons vraiment découvrir... Les traces, les petites anecdotes, c'est ce que vous aimez, vous savez que le lecteur aime ça, voilà,
ça,
absolument,
oui, bien sûr.
De nos empereurs dans des villes que nous connaissons et peut-être des villes auxquelles nous ne nous attendons pas forcément.
Exactement, parce que ce sont deux parcours qui sont étonnants. Le premier, bien évidemment, est très célèbre parce que tout débute évidemment à Ajaccio et que cette destinée Napoléon Ier, tout le monde, bien évidemment, en est déjà un grand connaisseur. Et à travers cet ouvrage, c'est de bien sûr retrouver un peu, à travers ce parcours, retrouver les lieux qui ont été marqués par son destin, qu'effectivement, qui part de Corse et qui va le conduire à travers Autun, Brienne, en direction de Paris. Et on connaît tous les lieux à la fois de ses premières affectations dans ses différents régiments, à Valence et à Aussonne. Et puis ensuite, avec la Révolution, c'est un parcours qui va prendre un souffle totalement inédit. Et à ce titre, Napoléon, c'est une sorte de météore de l'histoire. Eh bien, cet ouvrage permet justement de retrouver des lieux très célèbres, comme on vient de le dire, et puis parfois, des sites qui le sont un peu moins. Je vous donne juste un exemple qui vient d'entrer notamment dans cette association des villes impériales qui a été constituée en 2011 par la volonté de Patrick Collier, le maire de Rueil-Malmaison, et de trois autres villes, Compiègne, Fontainebleau et Saint-Cloud. Eh bien, par exemple, dans l'une des dernières villes, il y a dans les villes partenaires Mortefontaine. Mortefontaine, c'est là où... C'est une chose importante aujourd'hui où nous commémorons le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Eh bien, c'était la première vraiment entente franco-américaine par un traité et c'était signé à Mortefontaine. Pourquoi ? Parce que c'était le lieu de résidence du frère aîné de Napoléon, Joseph Bonaparte. Voilà, ça permet de découvrir des sites qui sont entrés dans l'histoire et, comme vous le disiez très justement, qui permettent de comprendre aussi qu'à partir de petits éléments ou de choses un peu moins présenté par l'histoire, on peut découvrir la grande histoire à travers la petite.
Et puis, il y a plein d'anecdotes sur Brienne, de toute façon.
Énormément.
Oui.
J'ai été directeur du musée.
Mais je sais bien.
J'adore ce lieu parce que
à l'époque
il est
de
chargé
Nicolas Duyck,
à la fois d'émotion et d'histoire, ouais. Et parce que la grande histoire est en train de se construire à ce moment-là. Il doit se construire par opposition. Voilà, Mortefontaine.
Je montre Mortefontaine.
Il doit se construire à ce moment-là, Brienne, par opposition à ses petits camarades qui se moquent à la fois de son accent, son teint un peu olivâtre, de cette façon de Méditerranée. Qui est aux antipodes, sans jeu de mots aucun, mais aux antipodes de cette habitude de vie que peuvent avoir les petits gentilshommes de cette France bien installée. Lui vient d'une île qui est sous protection française et qu'il a été un an avant sa naissance. Donc, on se moque un peu de tout ça. Et bien, dans cette opposition, il va se construire, il va se réfugier dans la lecture, il va devenir le grand personnage que l'on connaît parce que justement, il y a cette opposition. Peut-être, s'il était resté à Ajaccio, en utile était autrement. Et c'est ça qui est passionnant chez Napoléon. Et dans cette optique-là, eh bien, on comprend que ce météore de l'histoire va constituer notamment des étapes essentielles. Un exemple aussi, lorsqu'il est au pouvoir, la première grande visite officielle d'un chef de l'État, il y avait eu déjà Louis XVI, Louis XIV avait déjà fait des choses comme ça, mais une première grande visite officielle d'un couple chef d'État, Napoléon et Joséphine, c'est pour la Normandie. Et ce voyage va permettre de découvrir à la fois le quotidien des Français, d'aller voir les usines qui sont en train de s'installer, par exemple les frères Cévennes à Rouen. Et tout cela va donner une impulsion pour que la France, qui est en train de travailler, comprenne que l'État est derrière elle. C'est une chose tout à fait nouvelle. Et c'est assez intéressant parce qu'ensuite, Napoléon III, vous en parliez tout à l'heure, va prendre aussi cet héritage et va en faire ce que l'on connaît finalement de notre France actuelle. Donc c'est intéressant de voir ce double contraste avec les deux empereurs.
Alors, vous avez parlé, vous avez dit le météore. En effet, c'est un météore. On ne va pas dire qu'il prend le temps, si ce n'est pour deux villes dont oui. nous allons parler, évidemment La Roche-sur-Yon et Pontivy. Sinon, il ne prend pas le temps de s'attarder,
non.
j'allais dire, sur les villes.
Non.
Alors que Napoléon III, oui,
complètement.
Il prend le temps de s'inscrire, d'aimer, de vivre
oui.
pleinement ces villes.
Napoléon III va faire deux grands types de voyages. Les premiers, lorsqu'il faut apporter le concours de l'État et d'apporter le suivi lorsqu'il y a de grandes catastrophes, que ce soit les inondations à Lyon, dans le sud de la France. Et à ce moment-là, Napoléon III sera vraiment aux côtés des Français. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'il faut rendre visite pour que à la fois les infrastructures sont en train de se réaliser, par exemple avec le chemin de fer. Napoléon III sera là pour inaugurer des gares, des infrastructures, des entreprises qui sont florissantes et d'autres qu'il faut soutenir. Et puis Napoléon III, pour toutes ces raisons, eh bien, va marquer vraiment durablement le territoire français avec les deux grandes dernières intégrations territoriales que sont les Savoies et Nice. Aujourd'hui, on commémore le 10e anniversaire du terrible attentat du 14 juillet 2016. Eh bien, Nice est devenue française en 1860, au temps Napoléon III, et donc le couple impérial, Napoléon III et Eugénie, se rendent sur place, sont accueillis par le préfet, par le maire de la ville, reçoivent les clés, et c'est en allant sur les hauteurs de la ville que Napoléon III, qui est un empereur bâtisseur, puisqu'il est urbaniste, on voit ce qu'il a fait à Paris et dans d'autres lieux, avec Haussmann notamment, mais à Nice, il se rend compte que cette petite allée qui borde la mer pourrait devenir un lieu important. Eh bien, cette promenade des Anglais, elle est née justement de cette découverte de l'empereur lorsqu'il est arrivé dans une ville qui venait de devenir française.
Donc la promenade des Anglais, c'est dû à l'empereur Napoléon III ?
Elle va s'appeler promenade des Anglais ensuite parce que les Britanniques vont en faire un lieu de villégiature, mais à l'origine, c'est une volonté impériale parce que Nice avait besoin d'infrastructures et d'accueil pour un tourisme de villégiature qui était en train de se construire.
Et avait-elle un autre nom auparavant ?
À l'époque, non. Elle aurait dû devenir l'allée de l'empereur. Hélas, pour lui, dix ans après, Sedan est passé par là et donc il faudra donner une autre appellation. Elle deviendra ensuite promenade des Anglais sous la Troisième République.
Alors, c'est très amusant, c'est que donc, dans votre ville, c'est que nous avons, certes, vous évoquez un grand nombre de lieux, et encore, pas tous, forcément.
Pas tous, parce que...
Un deuxième volume ?
Non, enfin peut-être pas, mais c'est un livre qui a été constitué en collaboration avec toutes ces villes, puisqu'on a maintenant 44 villes qui font partie de cette association des villes impériales, donc elles sont présentées avec des encadrés qui leur sont dédiés avec leurs photographies. D'autres sont citées, par exemple Vichy n'en fait toujours pas partie, d'autres pourraient intégrer aussi cette association des villes impériales qui mettent en commun à la fois leur programmation, leurs animations, leur protection du patrimoine. Et puis de l'autre, c'est aussi pour montrer tout ce qu'il reste justement dans ces marques, dans ces appellations, tout ce qui laisse finalement une trace de cette période impériale à travers cette belle France et même au-delà, parce que j'évoque notamment Sainte-Hélène qui fait partie aussi de ce réseau. Donc c'est vraiment beaucoup plus international que ça n'en a l'air. On parle notamment de Marengo, de Waterloo, d'Ostrowa en Pologne, des lieux qui ont été vraiment marqués par la volonté impériale, soit du premier, soit du second empire. Et à la fin, il y a donc une carte.
Alors, oui. Voilà, donc à la fin, vous avez la carte, absolument. Mais donc, vous avez, ce qui est très amusant, c'est qu'on peut organiser les choses, on peut vous donner l'idée à nos auditeurs, à vos lecteurs, de pouvoir visiter, finalement suivre un parcours, pourquoi pas cet été, s'il manque d'idées, ou s'il souhaite une idée pour voyager un peu. Il y a toutes les villes avec les contacts des offices de tourisme.
Des offices de tourisme, c'est ça permet justement de se dire, Au fil de la lecture, on suit finalement chronologiquement ce qui s'est passé à cette époque, oui, du Premier et du Second Empire. Donc c'est une histoire qui se lit à part, mais avec ces encadrés des villes que l'on met en valeur, et puis à la fin avec ces références effectivement des différents offices de tourisme, cela permet au lecteur de devenir voyageur et de se rendre sur place pour découvrir, soit par exemple en région parisienne, Saint-Leu-la-Forêt, Fontainebleau, hélas en ce moment marqué par les terribles incendies de sa forêt, et puis peut-être aller au-delà en allant vers le sud avec Aix-en-Provence, Fréjus, Saint-Raphaël, je le disais, Nice, et puis passer par les Alpes, remonter dans les Vosges à Plombières, repartir en direction du nord. Bref, c'est une très belle France, et puis pour la côte atlantique, évidemment, il y a l'île d'Aix, on a parlé de la Roche-sur-Yon, et plus au sud, avec jusqu'à Biarritz. Donc c'est une France qui a été à la fois transformée, marquée par l'histoire, et puis aussi qui devient des lieux de, enfin qui devient un élément aussi de tourisme à part entière. Donc c'est aussi cette marque touristique qui est représentée à travers cet ouvrage.
Il est dommage quand même que Vichy n'en fasse pas partie.
Ça ne saurait tarder. Vichy s'est aussi beaucoup intéressé à son appellation de ville de l'UNESCO, puisqu'elle a été classée comme patrimoine de l'UNESCO pour son thermalisme.
Oui.
Et ça lui a pris énormément de temps, parce qu'il a fallu aussi remettre un peu des choses en place pour la ville. Mais ça ne saurait tarder dans les prochains mois, prochaines années, pour que Vichy intègre cette très belle association.
Toutes les villes y sont impériales ou pas?
Oui, les principales y sont. On parlait tout à l'heure d'Ajaccio. On va de la naissance de Napoléon Ier jusqu'à au départ de Napoléon III. Et de toutes ces villes, finalement, il n'en reste peut-être qu'une seule importante qui serait peut-être Marseille. Mais ça ne saurait tarder parce que le dossier est en train d'être étudié justement par la municipalité de Marseille. Lyon. On va dire que c'est un cas encore un peu particulier parce que Lyon est davantage tourné vers d'autres aspects historiques, notamment l'Antiquité. Mais c'est peut-être aussi... Et puis, alors, il y a l'exception parisienne, mais Paris n'appartient pas uniquement qu'à une seule histoire. Paris est pluriel. Paris a été marqué par toutes les périodes historiques. Et ce serait peut-être réducteur de faire entrer, mais rien n'interdit, mais de faire entrer Paris comme ville impériale.
Je ne vois pas Compiègne.
Alors Compiègne en a fait partie. Compiègne était à l'origine de cette association. Il y a une décision municipale qui a voulu s'en retirer, mais peut-être lorsque les choses seront changées, elle reviendra dans le giron. C'était elle qui était à l'origine, justement.
Dommage.
Je disais, avec Rueil-Malmaison, Saint-Cloud et Fontainebleau, c'était elle qui était à l'origine de cette création.
Ils ont voulu sortir.
Ils ont voulu en sortir il y a quelques années. Mais peut-être.
Pourquoi pour des raisons politiques?
Oui, sans doute.
C'est dommage.
Mais,
quel gâchis.
Peut-être avaient-ils d'autres idées. Ils ont surtout insisté sur l'histoire royale, à travers notamment Louis XV. Mais ça n'est peut-être que partie remise. Et puis de toute façon, Compiègne fait énormément de choses. Son château, vous le savez, est tellement marqué par le Second Empire.
Ah oui, complètement.
Avec
c'était le lieu de week-end de villégiature, enfin pas de villégiature, mais de week-end de l'empereur Napoléon III.
Exactement. Les fameuses séries de Compiègne.
Oui, la série, voilà. Merci.
Les fameuses séries.
Les fameuses séries de Compiègne.
À l'impératrice et à l'empereur de recevoir, en partant de la gare du Nord, où justement, aujourd'hui, se trouve depuis maintenant près de 40 ans, une place Napoléon III devant la gare du Nord. Eh bien, on prenait le train en direction de Compiègne et tout ce qui comptait de personnalité à la fois politique, littéraire, scientifique, comme par exemple Pasteur. Pasteur faisait des expériences devant la cour de l'empereur et l'impératrice de manière un peu plus informelle, ce qui permettait aussi aux différents talents féminin ou masculin, de se retrouver. George Sand, par exemple, a fait partie de ce cénacle. Ça permettait aussi de comprendre que cette France du Second Empire n'était pas uniquement cloisonnée dans une structure, mais qu'au contraire, tous les talents pouvaient s'y retrouver, qu'ils soient les peintres, que ce soit aussi les diplomates. Tout ce petit monde se retrouvait, non pas sous les ors empesés des Tuileries, mais dans un lieu, justement, où Compiègne permettait de faire toutes ces rencontres de manière beaucoup plus agréable et dans l'esprit un petit peu de nos villégiatures estivales actuelles.
Et comment ça se passait? C'était très convivial ou c'était...
Alors, c'était les deux. C'est-à-dire que c'était très convivial et plutôt informel. C'est ce que souhaitait notamment Eugénie, qui voulait que les différentes personnalités qui s'y retrouvaient puissent librement échanger et découvrir ensemble ce sur quoi ils travaillaient. Mais de l'autre... il y avait une sorte, non pas d'étiquette, mais d'organisation très stricte qui permettait justement à ce que chacun puisse profiter pleinement sans se soucier de toute, toutes les difficultés qui peuvent être inhérentes lorsque vous êtes invité, vous ne vous sentez peut-être pas forcément à l'aise. Là, vous aviez votre rond de serviette, vous saviez exactement où était votre chambre, vous saviez exactement, vous aviez une sorte de planning qui vous était proposé, et la journée était organisée entre rencontres, visites, promenades, chasses, spectacles. Et tout ça, notamment lorsque Mérimée était à la baguette, pouvait se terminer avec la fameuse dictée.
C'est amusant.
Ouais. Lors de ces séries qu'on s'est retrouvés pour faire de nombreux jeux, que ce soit des jeux de plein air, mais aussi ce type d'activité plus intellectuelle.
Et alors, il y a combien de personnes qui étaient invitées généralement ?
C'est très très variable. Les premières séries étaient assez modestes. On comptait entre 30 et 40 personnes. Ça comptait près de 200 dans les grandes années.
Ah oui, quand même.
Mais ça
ouais.
prenait trop de proportions, donc il fallait aussi alterner donc l'empereur et l'impératrice, qui restaient donc de longues semaines à Compiègne pour recevoir. Ensuite, on changeait un petit peu parce qu'ils allaient aussi en villégiature, pour l'un à Plombières et pour l'autre, puis ensuite à Vichy, et pour surtout Eugénie à Biarritz.
Oui.
Donc il fallait aussi organiser l'été et le début de l'automne comme ça. Donc à Compiègne, on s'est plutôt contenté du début de l'automne.
Y avait-il une ville préférée pour Napoléon Ier, pour Napoléon III ?
Alors, pour Napoléon Ier, c'est évident qu'Ajaccio reste dans son cœur. Ça reste quand même le lieu de son enfance. Il la chérira, il en restera énormément de souvenirs, notamment lorsqu'il est à Sainte-Hélène. Il se souvient avec beaucoup de perspicacité et surtout d'émotion de ce qui s'est passé pendant sa jeunesse. Il a été quand même déraciné de son île natale à 9 ans et demi pour faire cette éducation à Autun puis à Brienne. Pour Napoléon III, il garde un attachement pour les lieux justement des lieux qui ont été ceux de son enfance avec sa grand-mère Joséphine et avec sa mère Hortense. Et en particulier, je le disais, Plombières. Parce que Plombières lui fait penser aussi aux années qu'il a passées ensuite en exil en Suisse. Alors c'est pour ça qu'il va installer des chalets, c'est pour cette raison qu'il va se retrouver au milieu de la forêt, qu'il va être dans une gastronomie qui lui rappelle notamment ses années suisses. Et donc c'est deux lieux d'attachement. Mais pour ce qui reste de leur empreinte, il est indéniable que ça reste Paris. Paris a était totalement transformé par Napoléon Ier pour ses grands monuments, que ce soit les Arcs de Triomphe, que ce soit la rue de Rivoli, la Madeleine, la liste très trop longue, la Bourse, enfin bref, des monuments très importants. Pour Napoléon III, c'est tout le système même de circulation avec les grands axes que font à la fois Haussmann et toutes ses petites mains, parce que c'est un travail de longue haleine, et Napoléon III va totalement transformer la ville. Pour cela, j'invite d'ailleurs le lecteur à aller voir les très belles photographies que Charles de Marville avait faites avant les travaux et après les travaux. Ça permet de découvrir, bien sûr, ce qui, hélas, a disparu, mais ce qui, au contraire, nous a aussi été laissé, parce que sinon, Paris serait totalement invivable aujourd'hui en termes d'hygiène et de circulation.
Il y a une exposition en ce moment ?
Non, mais les photographies sont publiées régulièrement. Il y a un livre récent qui a été publié sur Charles Marville qui permet de comprendre justement le avant-après.
C'est
passionnant parce que justement...
Moi, je déplore le nombre d'hôtels particuliers qui ont été détruits.
C'est hélas le drame.
Ouais.
Et on sait qu'en 1900, lorsqu'il y a l'exposition universelle qui, bien sûr, réunit tous les talents à la fois industriels et artistiques et artisanaux, qu'un vieux Paris est installé sur les bords de Seine pour montrer à quoi cela pouvait ressembler du temps du Moyen-Âge. C'est un Paris un peu rêvé, mais c'est vrai que les destructions d'Haussmann ont été terribles. En revanche, Haussmann a été au bout de son idée, c'est-à-dire qu'on peut lui reprocher effectivement ces destructions, mais de l'autre, il était au bout de son principe parce que lui-même se trouvait dans ses différentes perspectives avec un vrai cas de conscience. Sa maison natale, son immeuble natal, était dans l'axe qui devait être détruit. Eh bien, à la différence de ce qui est parfois fait de manière beaucoup plus contemporaine, il a décidé qu'il fallait détruire cet immeuble et qu'il ne fallait rien en laisser parce que l'axe qui avait été choisi passait par cette maison qui avait été le lieu de sa naissance. Donc, alors, ça montre vraiment qu'il était...
Il a été jusqu'au bout
jusqu'au boutisme, peut-être
honnête.
Un peu... Voilà, qui peut se critiquer, mais il a au moins été honnête dans ses affectations.
Alors, il y a ça, mais il y a une idée reçue, en fin de compte, sur Paris, puisqu'il y a combien de véritables immeubles haussmanniens ?
Alors, très peu.
Et oui.
Parce que
il y en a quoi,
projet...
10, 20%?
Une vingtaine
de quoi? D'immeubles?
Oui, une vingtaine d'immeubles.
C'est tout?
Oui, parce qu'en fait...
Je pense qu'il y en avait quand même plus.
Non, parce que là, je parle des immeubles qui ont été inaugurés du temps du Second Empire.
Oui, nous sommes d'accord. C'est ce dont je parle aussi.
Et ensuite...
Après, il a créé un style.
Il a donné un style, il a donné une affectation à la fois dans les étages, dans la distribution, dans les différents balcons qui ont été installés, dans les proportions, parce qu'il fallait que les proportions respectent la largeur de l'avenue par rapport à la hauteur du bâtiment lui-même, pour justement que l'air et le soleil, aujourd'hui on essaie de se retrouver dans l'ombre, mais à l'époque, il fallait aérer et donner un peu de lumière à cette ville qui était un peu enfouie à travers ces dédales de rues. Donc, il a fait en sorte que l'amélioration soit immédiatement visible. Et donc, ces bâtiments, qui ont pris énormément de temps pour être réalisés, n'écloront dans la ville que dans les années 1880-1890. Et on s'en donne d'ailleurs un exemple très précis. Le travail, on va dire, qui devait couronner l'ensemble, c'était ce grand opéra qui avait été confié par concours à Charles Garnier. Et Garnier, finalement, après tous les soubresauts politiques et de la vie même de ce chantier, ne verra l'inauguration officielle qu'au début de l'année 1875. On est déjà sous le Second Empire et c'est Mac Mahon qui préside à cette cérémonie.
Seconde République.
On est la Troisième République.
Troisième République.
Ouais, c'est la Troisième République.
Oui,
Mac Mahon, qui est quand même un héritier de cette période, puisqu'il était maréchal du temps de Napoléon III, prend la suite en étant l'un des premiers chefs d'État de cette Troisième République.
C'est un peu en dehors de votre ouvrage, mais est-ce que vous pouvez décrire pour nos auditeurs l'immeuble haussmannien type?
Oui, alors il se compose d'un rez-de-chaussée où des magasins peuvent être installés, ce qui est donc un peu dans l'esprit de ce Second Empire où les échanges commerciaux sont à l'honneur. On a fait justement le libre-échange avec l'Angleterre qui a transformé radicalement les relations que nous pouvions avoir. Alors, Louis-Philippe avait déjà mis en place un certain nombre de choses, mais Napoléon III, avec ses échanges, notamment en faveur de ses échanges avec la Grande-Bretagne, va énormément favoriser cela. Donc, il y a des magasins dans le rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée est dédié justement à l'échange commercial. Le premier est l'étage noble. Il a donc tous les aspects, il y a parfois des entresols, mais c'est l'étage noble avec tout ce que cela comporte. Le deuxième étage permet justement à la famille bourgeoise qui s'y est installée d'avoir ses appartements privés, c'est-à-dire que le premier étage, c'est les appartements publics où nous recevons, le deuxième, c'est les appartements privés, et ensuite, tous les étages qui sont supérieurs sont là pour être dévolus soit à des locataires, soit ensuite à la petite...
À la petite
domesticité qui va s'installer soit dans les sous-pentes, soit dans les appartements qui sont attitrés. Et donc, c'est une vie qui n'est pas encore dans le mélange social. Ça ne le deviendra parce qu'ensuite, la transformation va se faire à partir des années 1890. Avec ce même principe, finalement, on va en faire 3, voire 4 appartements différents. En fait, chaque étage sera dévolu à un propriétaire différent, ce qui permettra finalement, en fonction des biens et des possibilités de chacun, de faire cette mixité sociale que souhaitait au départ Napoléon III, mais qui n'avait pas réalisé tout à fait.
Quels sont les étages qui ont des balcons?
Alors les étages qui ont des balcons,
c'est des vrais haussmanniens.
Oui, c'est deuxième et cinquième.
Deuxième et cinquième, donc les bourgeois, pas le...
Non.
C'est amusant ça.
Oui, alors c'est-à-dire qu'on reçoit au premier, mais on vit au second.
Oui.
Au deuxième plutôt, et au deuxième étage, ça permet de se montrer et de profiter justement en famille des bienfaits de cette ouverture. Et ensuite au cinquième, c'est justement dévolu à la deuxième possibilité, c'est-à-dire au deuxième propriétaire ou au deuxième locataire.
Deuxième et cinquième. C'est amusant ça, voilà. Alors, revenons à nos...
Et puis surtout avec ce système avec de carènes de bateau qui permet, avec l'ardoise ou le zinc, de protéger un bâtiment qui, à l'époque, n'était pas forcément dans cette optique. Ensuite, on transformera les choses autrement. Mais cette transformation urbanistique et j'allais dire sociale, se fait aussi dans un moment où on réfléchit à la façon dont il faut à la fois ouvrir, peut-être un peu aussi requalifier les espaces qui avaient été marqués par les différentes... on va dire, les différents mouvements sociaux, qu'ils soient les révolutions de 1830-1848. Donc, ça permettait d'éviter que de nouvelles barricades soient installées
Bien
à Paris.
Sûr. Et oui.
Il y a aussi cela, en élargissant les avenues. Mais ça permet aussi à la circulation de s'améliorer. Et qui dit amélioration, donc rapidité, dit échange plus rapide, dit favoriser le commerce et donc l'activité industrielle de manière générale. Et donc, c'est dans ce sens-là que Paris devient la première ville au monde, avec peut-être Londres, mais l'une des premières villes au monde, ce qui explique que les grandes expositions universelles, après Londres de 1851, les grandes expositions universelles se feront à Paris en 55, en 67, en 89 et en 1900.
Alors, revenons à votre ouvrage. Donc, on a même la maison de
la maison
Napoléon
natale.
Dedans.
Oui,
c'est joli. Je n'avais jamais vu les intérieurs. Et finalement, c'est quand même assez cossu.
C'est assez cossu parce qu'il y a une double histoire. Il y a la première, celle que Napoléon connaît. Lorsqu'il naît dans cette maison, elle est assez modeste. Et d'ailleurs, c'est encore un partage avec certaines familles, notamment les Pozzo di Borg, qui sont les cousins avec lesquels les difficultés vont s'amonceler. Et donc, il y aura une confrontation entre les deux cousins, Napoléon et Charles Pozzo di Borg. Et puis de l'autre, il y a lorsque Madame Mère, avec un peu plus de moyens, revient en 1797, après avoir été chassée, elle va remeubler, elle va transformer, et c'est cette transformation que l'on voit encore aujourd'hui avec des mobiliers qui datent soit de Louis XVI, soit déjà de cette époque qui annonce le Directoire.
Oui, et donc ça a été fait après que Napoléon ait accédé au trône, etc. Oui.
Du moins, il était déjà...
Ce qui prouve l'attachement.
Il était déjà un général installé, et puis avec le consulat, c'est vrai que la maison va connaître de nouvelles transformations. Ensuite, ce sera acquis par la famille et ça va être légué par le prince Victor Napoléon, le prince Napoléon donc de son prénom Victor, qui léguera à l'État français. Et donc, c'est un musée national, c'est la maison natale, qui est un lieu, j'y serai d'ailleurs la semaine prochaine, je donne une conférence au musée Fesch à proximité. Donc, c'est un lieu qu'il faut aller visiter parce que ça reste un endroit de légende. Tous les grands, d'ailleurs, écrivains, que ce soit Flaubert, que ce soit Victor Hugo, etc., en parlent ou l'ont visité parce que, justement, on doit s'imprégner aussi de cette énergie dans laquelle se trouvaient les 8 enfants de Laetitia et Carlo Maria.
C'est une maison qui a une âme.
Oui, elle a une âme. Elle a une âme parce qu'elle a été préservée, tout ça.
Oui.
Au-delà de tout ce qui a été fait ensuite, on garde encore l'esprit de la maison, Corse, la maison patricienne,
oui,
où on retrouve cette petite noblesse, enfin de cette modeste noblesse plutôt, on va dire, parce qu'il n'y a pas de petite ni de grande noblesse, c'est modeste noblesse par rapport à une noblesse continentale, mais c'était aussi pour montrer que cet attachement, cette volonté d'accéder aux grandes fonctions, la famille devait beaucoup au couple que formaient Charles-Marie et Laetitia.
Alors, dans votre ouvrage, quand j'ai regardé la carte, j'ai été surpris de voir Autun et Valençay. Mmh. Je me suis dit au début, mais non, ça sont des villes de Talleyrand.
Talleyrand, eh oui. C'est le hasard qui veut que ces deux villes aient été marquées. Autun, parce que je le disais, Napoléon y reviendra d'ailleurs à différentes reprises, mais c'est là qu'il fait vraiment les premiers apprentissages de la langue française. Il conservera très longtemps des italianismes. Il confondra, ça va faire peut-être sourire nos auditeurs. Il va garder dans l'esprit une confusion, ce qui va d'ailleurs poser parfois quelques problèmes, entre amnistie et armistice. C'est-à-dire que dans son apprentissage de la langue française tardive, il a donc déjà 9 ans et demi, 10 ans, les italianismes reviendront fréquemment. Il parlera d'ailleurs corse avec sa famille tout au long de son règne. Il y a une anecdote célèbre, au moment du sacre, alors qu'on est en 1804, qu'on n'a plus entendu parler corse depuis longtemps, eh bien, il y a un mot qui ressort, une phrase qui ressort, il se tourne vers son frère Joseph en entrant dans Notre-Dame et lui dit « Ah Giuseppe, ci babu mi vecchia, ah Joseph, si notre père me voyait. » C'est vrai, si leur père avait imaginé que 11 ans après avoir quitté précipitamment la Corse dans ces conditions terribles, eh bien il était devenu quasiment l'égal de Charlemagne, avec le pape en personne pour ce sacre et lui-même se couronnant. C'était insoupçonné. Eh bien,
ouais,
11 ans après, ils ont tout perdu. On se retrouve à Waterloo et Napoléon a tout perdu. Et bien ce côté justement...
Waterloo qui est d'ailleurs dans les villes impériales.
Qui est dans les villes impériales et qui souhaite justement valoriser ce patrimoine en montrant que lorsque le public se rend à Waterloo, bien sûr il sait qu'au départ c'est une défaite, mais en voyant tout ce qui est mis à l'honneur pour Napoléon, il se demande d'ailleurs si le vrai vainqueur de la légende, c'est pas celui qu'on imagine être celui qui est défait par les armées de Wellington et de Blücher.
C'est ça qui est absolument incroyable. C'est que Napoléon a beau avoir été vaincu, de toutes les villes où il est passé, finalement le mettre comme un... Voilà.
Victor Hugo, dans Les Misérables, dit que c'est la glorieuse défaite. Ouais. Tout est dit.
Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait qu'il a laissé son testament ?
Oui, ah bah c'est évident.
Alors que Napoléon III, c'est son erreur.
C'est peut-être son erreur. Et puis surtout, il a, avant son testament, il a eu autour de lui, on va dire, 4 évangélistes qui ont parlé de ce nouveau Dieu moderne et qui ont chacun traduit une part de son histoire. Celui qui est maître de l'histoire et de la légende, c'est celui qui écrit son oui. texte. Napoléon III ne l'a pas laissé. Il est mort trop tôt, il n'avait pas eu le temps de le faire. Il pensait revenir un jour au pouvoir ou au moins le laisser à son fils, le fameux prince impérial qui était né en 1856. Il n'a pas eu le temps puisqu'il est mort en 1873, Napoléon III. Il n'a pas eu le temps d'écrire justement ses mémoires et de donner une place à ce testament.
Est-ce que finalement il n'a pas été trop modeste aussi par rapport à Napoléon Ier ? Napoléon Ier, c'est... On a le boulevard des Maréchaux, on a quand même, il est enterré aux Invalides, il va piquer au roi finalement tout, il y a la place de l'Étoile, il y a tout, c'est quand même assez incroyable. Oui. Il s'approprie le palais du Louvre, il s'approprie Paris.
Et pourtant, leur histoire à eux deux sont parallèles et
oui,
presque
complémentaires. Oui, c'est ça que je ne comprends pas.
Ça commence par un coup d'État, oui. pour l'un Brumaire, oui. pour l'autre 1851.
Oui.
Ils arrivent avec un empire qui s'installe 4 ans après, pour l'un comme pour l'autre. Et puis ensuite, eh bien, ça se termine avec une défaite, pour l'un Waterloo, pour l'autre Sedan. Hélas, pour Napoléon III, la chose est telle que après son règne, c'est la Troisième République qui doit montrer que par la défaite, il y a eu la perte de l'Alsace-Lorraine, ce qui est quand même une chose aussi dramatique.
Ça, c'est dû à la République, c'est
oui,
pas
mais,
dû à la...
Mais on le fait porter l'Empire. Le chapeau.
Oui.
On lui fait porter le chapeau.
Oui. Et on lui fait porter le chapeau de Sedan, enfin
oui.
de tout, quoi. Et y compris
alors que
de...
Oui, ouais. alors que Napoléon Ier, lui, a été suivi par la Restauration. Alors
ouais.
que, donc Louis XVIII et Charles X ont eu tellement maille à partir avec cette population qui souhaitait quand même des éléments de liberté, alors que Napoléon III leur avait déjà apporté.
Ah.
Donc, c'est ça qui change. Napoléon Ier, on fait tout parce qu'on craint un retour un jour. Alors que Napoléon III, on ne craint pas son retour, on craint au contraire qu'il ait gagné l'idée de du mythe. Donc, on essaie par tous les moyens, et donc, dans les programmes scolaires, on ne parlera jamais de Napoléon III. Il restera Napoléon le Petit tel que Victor Hugo l'a décrit. Alors que Napoléon Ier, on a besoin de lui à la fois parce qu'il y a la revanche contre l'Allemagne, parce qu'on a besoin de lui comme figure tutélaire, alors que Napoléon III, c'est l'homme à la moustache. Et puis surtout, allez, on va dire les choses, il y a l'imaginaire. Napoléon Ier n'a pas connu la photographie. Il a été embelli, il a été sublimé, il a été idéalisé
oui,
par tous les peintres.
Tableau, oui.
Par tous les peintres.
Oui.
Par lui-même déjà, parce qu'effectivement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc il s'est mis en scène. Napoléon III, hélas pour lui, a connu la photographie. Donc la réalité crue est apparue aux yeux des contemporains avec un personnage qui avait les yeux un peu tombants, qui n'était pas toujours très, très en valeur. Donc tout cela a contribué aussi à faire de Napoléon III quelqu'un de l'ombre et avec des images en noir et blanc. Alors que Napoléon III... Napoléon III n'a pas eu la chance que Napoléon Ier avait eue avec des peintres qui ont sublimé comme David, comme Gérard, comme Ingres, qui ont fait de lui le personnage de l'image telle qu'on le connaît.
Alors, vous me permettez une transition parfaite, mon cher David Chantran. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage magnifique, passionnant, mais noir aussi. J'ai vraiment appris, je ne savais rien finalement sur David, ce peintre que je trouve absolument extraordinaire. Qui finalement était un personnage très intransigeant, terrible, terriblement révolutionnaire.
Oui, révolutionnaire, et qui d'ailleurs terminera ses jours à Bruxelles parce que, comme il y a ce retour des Bourbons, lui qui a été à la fois engagé à la fin de l'Ancien Régime pour essayer de mettre fin aux académies, qui a été un des grands pontes du comité de sûreté générale, et donc qui travaille avec à la fois Robespierre, Saint-Just, Marat, qui est un ami proche, et qui va voter la mort du roi, faire l'instruction du procès de la reine, faire accuser la mère d'inceste, ce qui est terrible
non, mais
pour
il est
un
abominable.
Homme qui est
abominable.
Et bien, essayer de se
franchement,
oui.
abominable.
Et bien, c'est de se trouver une virginité en se ouais. disant « Ouh !» Il y a le météore Napoléon qui est en train de passer, je ne vais pas louper ce train-là, et donc il devient son peintre officiel, et grâce à cela, il essaie de faire un peu oublier ce passé sulfureux. Malheureusement, ça va le rattraper, on va dire à juste titre, hein, mais oui. Ça va le rattraper. En 1815, il faut quitter la France et il va s'installer pendant 10 ans à Bruxelles où il meurt en 1825.
Il échappe de peu à l'échafaud.
Ah ben, il aurait dû y aller.
Oui.
Ce qu'il ne voit finalement son salut qu'à trois choses. La première, c'est que comme c'est un peintre, on a besoin de son talent.
Oui.
La seconde, c'est qu'il a, comme on dit, des dossiers contre ses adversaires parce qu'ils ont tous été trempés dans les mêmes affaires. Et la troisième, il faut le dire très justement, c'est qu'il a une femme incroyable, formidable, qui avait demandé le divorce en 1790, voyant que son mari commençait à devenir totalement incontrôlable. Mais en le voyant enfermé, elle prend sa défense. Elle demande à ce que tous ses élèves fassent des pétitions pour le soutenir. Elle lui sauve ainsi la vie. Elle vient d'ailleurs lui améliorer son ordinaire en prison. Il est emprisonné deux fois, à la fois au Luxembourg et ensuite au Collège des Quatre Nations, aujourd'hui notre institut. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend tellement sa défense qu'elle parvient à le faire échapper à l'échafaud. Bien lui en prend parce qu'on sait effectivement que son talent va ensuite sublimer l'ascension de Bonaparte et ensuite tout l'Empire.
Oui. Alors, son talent est absolument extraordinaire, David. Bon, c'est un correcteur aussi d'histoire. Hein.
Ah ben, c'est l'image transformée.
Oui.
Avant même tous les logiciels de transformation de l'image, c'est David qui sait faire ça. Sur le tableau du sacre,
oui.
Il y a plusieurs personnes qui n'en faisaient pas partie, notamment la mère de Napoléon.
Alors,
qui n'était pas présente. Mais il y a plein d'autres personnages. Il y a Consalvi qui aurait dû être là, qui n'est pas là, mais Caprara devait prendre sa place. Et puis finalement, Caprara, qui était le légat du pape en France, était malade, mais on le met quand même à côté de sa sainteté. L'ambassadeur de la Sublime Porte, entendez par là évidemment la Turquie actuelle, donc l'Empire ottoman, ne pouvait pas figurer dans une cathédrale.
Ah ben
et
oui.
Pourtant...
Juste.
On le met dans le tableau.
Ouais.
Et de la même manière, il y a plein de personnages qui vont figurer à côté du pape qui ne devaient pas être présents. Notamment, ben, vous l'avez cité tout à l'heure, Talleyrand.
Mm-hmm.
Talleyrand ne pouvait pas être, puisque en tant qu'évêque défroqué, il ne pouvait pas être à proximité du pape. Il était dans l'autre partie de l'église, Notre-Dame de Paris, de la cathédrale. Et bien là, il figure en bonne place, juste à côté, avec un petit sourire narquois qui montre bien qu'il sait un petit peu déjà comment toute cette histoire va se terminer.
Ouais.
Donc David... est très au courant de tout ça et c'est exactement comment manipuler ou du moins arranger la réalité pour en faire un tableau à la fois sublime, mais comme Napoléon
sublime.
Le disait, il dit du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Et parfois, les attitudes des personnages ou leur tenue n'ont pas été vraiment comprises par leurs contemporains, donc il y avait un côté un peu ridicule aussi dans tout cela. Donc c'est assez
vous
ça qui... Ah oui.
Dans ce tableau, vous trouvez ?
Alors le tableau, moi je le trouve magnifique.
Oui.
Mais il n'en demeure pas moins que pour un personnage qui a fait toute sa carrière avec une silhouette, avec un bicorne et une main dans le gilet, le voir dans la tribune un grand costume du sacre avec des dorures et puis l'hermine doublée pour ce grand costume... C'est très surprenant. On a l'impression que c'est un César couronné ou c'est un Louis XIV républicain.
Oui, c'est
très
surprenant. C'est un empereur en même temps.
Oui, mais...
C'est l'image qu'on se fait des empereurs.
Aujourd'hui, oui. Pour l'époque, ça a été très,
ah,
mal,
pour l'époque,
très, très,
très
mal perçu.
Ah oui.
C'était quand même le vainqueur du pont d'Arcole, de Marengo, qui se retrouvait là comme... il fallait s'imaginer que 11 ans auparavant, on avait quand même guillotiné un roi et on se retrouvait avec un empereur.
Oui, oui.
Il y avait quand même un côté... presque provocateur.
Mm.
Donc c'est ça chez Napoléon. En revanche, ce qui est formidable, et le tableau donne vraiment cette idée, c'est que le tableau David dit, mais finalement, c'est peut-être comme ça que la France doit maintenant agir. Il faut faire la synthèse entre notre passé et notre avenir. Et dans cette synthèse, elle est dans un présent qui est celui du sacre, en disant, ces gens qui sont venus de tous horizons, parfois d'extraction modeste, on se souvient d'un maréchal Murat, par exemple, dont le père tenait une très petite auberge et puis qui avait aussi des petites fonctions. Ney, la même chose, le maréchal Lannes, bref, ils avaient des fonctions très...
Bernadotte qui avait un tatouage avec marqué mort au roi et qui se retrouve roi.
Qui deviendra roi de Suède et dont d'ailleurs les héritiers sont toujours d'ailleurs sur le
sûr,
trône.
Oui.
Et qui avait donc effectivement, qui avait plutôt été destiné à devenir ce qu'on appelle un saute-ruisseau, c'est-à-dire quelqu'un qui devait aider les notaires à travailler, ben finalement va accéder aux plus hautes fonctions et va donner naissance à une dynastie qui reste encore en l'état. Donc, il y a tout ça.
Mmh.
C'est cette synthèse d'une France qui n'est plus d'ancien régime,
incroyable.
Tout à fait, qui n'est pas vraiment encore républicaine,
ouais.
Mais qui est une forme que n'aurait pas renié notre 5e République actuelle.
Ouais. Alors, votre ouvrage, donc je voudrais les représenter. Le premier, dont évidemment on a encore quelques temps, mais le premier, c'est « Villes impériales sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III ». aux éditions Flammarion, et le deuxième dont nous avons commencé à parler, David Chantran, Jacques-Louis David, L'Empereur des Peintres, aux éditions Passé Composé. Et ouvrage très récent également. Je voudrais revenir sur cette histoire de nous allons parler du passage également du tableau du Grand Saint-Bernard, du passage du Grand Saint-Bernard. Je vais revenir sur le sacre. Sur le sacre, est-ce qu'il a reçu des consignes pour ajouter tel ou tel personnage?
Oui.
Ah.
Oui, il reçoit des consignes.
Mais
parce
de qui?
De Napoléon lui-même.
De l'empereur lui-même.
Oui, parce que Napoléon a commandé 4 tableaux.
Oui.
Il voulait faire 4 étapes qui symbolisaient les grandes idées que devait favoriser l'Empire. Le sacre, c'est la religion. C'est vrai que depuis 1801, avec le Concordat, la religion catholique n'est plus religion d'État, mais elle est redevenue religion de la majorité des Français. Donc elle est intégrée vraiment dans la société. Et le sacre, c'est cet aspect-là, c'est la religion. De l'autre, il devait y avoir l'intronisation, un tableau qui devait représenter Napoléon prêtant serment sur la Constitution et qui donc assumait à la fois l'héritage royal, mais aussi de la République. Donc cette intronisation, c'était le moment où on prête serment, comme aujourd'hui d'ailleurs, les présidents de la République sont intronisés avec le collier de la Légion d'honneur et ils prêtent serment à la Constitution. Ça, c'était le deuxième tableau. Le troisième, c'est lorsque Napoléon se trouve à l'école militaire. Il distribue les drapeaux surmontés des aigles, donc c'est ce qu'on appelle la distribution des aigles. Ça avait lieu le 5 décembre 1804 et cette cérémonie devait montrer l'armée. Enfin, le 16 décembre, Napoléon et Joséphine, avec Madame Mère qui est enfin arrivée de Rome à tout petit pas, vient enfin d'arriver à Paris. Et donc toute la famille réunie se retrouve à l'hôtel de ville où un grand dîner suivi d'un feu d'artifice est donné. Donc les 4 éléments qui constituent l'Empire sont bien réunis, la religion, la politique, l'armée et le peuple. Et donc David reçoit des instructions très précises. Napoléon souhaite absolument que les personnes figurent dans ce tableau du sac parce que la famille doit être réunie, parce que les grandes autorités doivent être là, que ce soit les prélats romains, les prélats français, que ce soit les diplomates, que ce soit les grandes personnalités, les maréchaux, la famille elle-même. Bref, les grandes institutions doivent toutes être représentées. Et de la même manière, lorsque l'un d'entre eux ne doit pas figurer dans un premier temps, lorsque le tableau préparatoire est fait, Napoléon les ajoute. Et c'est lui qui demande. En revanche, la seule exception, c'est l'attitude finale. Doit-il se couronner lui-même ou au contraire doit-il couronner Joséphine? Et là, c'est une petite indiscrétion qui vient par un des élèves de David, qui s'appelle François Gérard, qui est un très grand peintre aussi, qui prendra la suite d'ailleurs de son maître en étant premier peintre, non pas de l'empereur, mais premier peintre du roi du temps de Louis XVIII. François Gérard dit que cette attitude faisait un peu martiale et peut-être faudrait-il que l'empereur couronnât l'impératrice. Et ce geste plaît beaucoup à l'artiste, qui le propose à l'empereur, qui le voit très bien, et il dit à David, en voyant le tableau final, il dit « David, vous avez lu dans mes pensées, vous m'avez fait chevalier français, comme le chevalier qui couronne sa belle. » Et en voyant le résultat, il ressort donc de l'atelier du peintre, et il dit « Ce n'est pas de la peinture, on marche littéralement dans ce tableau. » Autant dire que c'est quelque chose de...
C'est joli.
C'est très à la fois réaliste, et j'allais presque dire presque journalistique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un reportage. C'est pas vrai, comme je l'ai dit, mais on a l'impression d'être véritablement dedans. Pourquoi ? Parce que le tableau était destiné à être exposé.
Mm-hmm.
Et comme on sait qu'il n'y avait eu, entre guillemets, que 40 000 invités, ce qui est déjà beaucoup, mais il fallait aussi que tous les autres contemporains puissent aussi se rendre compte de l'importance à la fois symbolique et politique de ce geste qui montrait que Napoléon s'était invité à la cour des empereurs et à la cour des rois de cette époque.
Qu'est-ce qu'il en reste de Notre-Dame de cette époque ?
Rien. Pas grand chose.
Y avait-il les statues de Louis XIV et de Louis XIII ?
Alors, ils avaient été mis de côté du temps de la Révolution. Ils seront ensuite réintégrés.
Mais pas sous Napoléon.
La seule chose qui existe, c'est la descente de croix de Guillaume Coustou.
Ah, c'est tout.
C'est la seule chose. Mais on la voit très bien dans le tableau.
Ouais.
Elle est encore indiquée. Et c'est au pied de cette descente de croix, devant le maître-autel, que se trouve l'acte solennel du couronnement, enfin du sacre et du couronnement.
C'est tout ce qu'il y avait.
C'est tout ce qui a été fait.
Ouais.
Parce que tous ces décors qui avaient été faits ensuite par Louis XIV et ensuite Louis XV.
Oui, il y a un décor d'ailleurs qui n'a pas été remis de Louis XIV.
Non, qui n'a pas été remis.
C'était magnifique.
Tout ça a été détruit. En revanche.
Détruit ou défait ?
Ah non, c'était détruit.
Je croyais que de Louis XIV, il en restait. Il n'y a plus rien.
Non, c'était détruit. C'était refait après du temps de.
Justement, Viollet-le-Duc. D'accord,
c'est Viollet-le-Duc qui refera une partie. En revanche.
Mais qui n'a pas été remis.
Non, à l'époque de Napoléon, les deux architectes décorateurs qui étaient Charles Percier et Pierre-François Léonard-Fontaine avait fait un décor qui commençait à annoncer un peu le style troubadour, c'est-à-dire qu'on retrouvait un peu des accents, bon, bien sûr néoclassiques parce que c'était dans l'air du temps, mais on commençait à trouver quelques accents troubadours, c'est-à-dire un peu néo-médiévaux, qui sera la grande suite ensuite du style architectural et décoratif, qui vont donner naissance notamment au romantisme. Le romantisme, c'est l'art roman style.
Roman, d'accord. C'est le romantisme, c'est ça. C'est ça. Ouais. Un roman. Maintenant, je voudrais parler quand même d'un tableau quand même qui est absolument incroyable quand on y pense. Le tableau du passage du col du Grand Saint-Bernard. Mm. Non, mais franchement, quand on connaît la réalité, a priori, il serait tombé. Il était sur un dos de mulet,
c'est ça ? Un dos de mulet, oui.
Comment est-ce que le peintre David a pu imaginer 2 secondes le mettre sur un cheval fougueux comme ça, extraordinaire ?
Ça tient à une chose, c'est le commanditaire. Ça n'est pas Napoléon lui-même.
Ah !
En réalité, nous venions de faire, à ce moment-là, on est en 1800, et le tableau, d'ailleurs, précède une grande bataille qui est d'ailleurs qui nous relie à l'autre ouvrage, donc sur les villes impériales, Marengo. Marengo, ça n'est pas uniquement qu'une recette culinaire,
qui est très bonne au demeurant,
avec du veau et du poulet.
C'était quoi d'ailleurs ? C'était du veau ou du poulet ?
C'était du veau au départ.
Ah, donc c'était du veau. Mmh. D'accord, entendu. Mmh. Oui, ça me rassure.
C'est du veau qu'on servait. Mais au départ, la toute origine de départ, c'est du poulet. C'est-à-dire qu'en fait, tout au début. C'est-à-dire qu'au moment, au soir de la bataille, on raconte, mais c'est peut-être la légende la plus belle, on raconte qu'on a fait une recette.
L'empereur avait faim.
Oui, et puis on a fait une recette pour les soldats.
Avec ce qu'on a trouvé.
Avec ce qu'on trouvait.
Oui.
Donc, des tomates.
Oui.
Des oignons.
Oui.
Des poulets.
Bah
qu'on
oui,
avait retrouvé.
C'est plus logique.
Quelques écrevisses.
Ah!
Dans les cours d'eau environnants.
Ouais.
Et tout ça mélangé fait cette recette.
Ah, mais il faut des écrevisses alors.
Oui, c'est des écrevisses.
Ben alors donc c'est du poulet.
C'est du poulet au départ.
Mais il dit c'est du veau.
Non, le veau, c'est vraiment la recette initiale qui est demandée par l'empereur pour marquer ce souvenir. Donc c'est le veau parce que c'est beaucoup plus noble.
Ça veut dire que l'empereur.
Il est encore premier consul à l'époque, il demande à ce que la recette qui soit intégrée comme recette à la Marengo. Ça soit du veau.
Ah, excellent.
Plus noble.
Et est-ce qu'il met des écrevisses ?
Et il met des écrevisses dans les premières recettes. Oui.
Ah, excellent ça. Oui, donc il en a fait. Mais finalement, c'était un génie de la communication, cet homme.
C'est ça.
En vérité, ça n'est que ça.
C'est vraiment
Napoléon.
Ça. Plus que ça, mais il a au moins ce trait. Il s'est rendu compte qu'en réalité, que ce soit Louis XIV, que ce soit même beaucoup plus ancien, on a le souvenir de grandes étapes ou de grands moments, qu'ils soient d'ailleurs fixés par la peinture, le tableau, la gravure, la sculpture ou autre. Les grands
empereurs
romains.
Mais il les crée, les événements, même s'ils n'ont pas existé.
Tout, il les crée parce qu'il se rend compte qu'on frappe plutôt l'esprit. Il disait, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.
Aujourd'hui, nous fêtons donc le 14 juillet.
Oui.
C'est également la remise des Légions d'honneur.
Oui.
C'est lui quand même.
C'est
le
lui.
Voilà.
D'ailleurs, lui-même, la première distribution des Légions d'honneur, il faut que ça corresponde à un dimanche. Donc la première grande distribution des Légions d'honneur, ça a lieu le 15 juillet 1804.
Et pourquoi un dimanche ?
Parce que ça devait coïncider aussi avec une cérémonie religieuse. Donc il fallait que
ça. Il y a une messe ?
Il y a une messe à Saint-Louis des Invalides.
Ah, excellent. Il y a une messe sous
Napoléon
pour la remise des Légions
oui,
d'honneur.
Oui, parce que les premières messes ont eu lieu de nouveau après l'intermède révolutionnaire. La première messe a eu lieu le 18 avril 1802, donc juste après le Concordat.
Vous êtes inépuisable, David.
Non et donc,
c'est incroyable. Hein
et
je suis
donc,
sûr qu'on vous demande le bouton qu'il portait tel jour, vous le savez.
Oui, presque. Ouais. Et donc, pour cette grande cérémonie impériale, puisque l'empereur est donc intronisé officiellement depuis le 18 mai 1804, la première grande cérémonie, c'est le sacre. Hein.
Oui.
Mais depuis le 18 mai, il est empereur.
Oui.
Eh bien, la première grande cérémonie, elle a lieu pour une distribution des Légions d'honneur, qui a été créée depuis 2 ans, mais qui n'a pas encore eu de distinction officielle. Donc, la médaille telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va être décernée aux civils et aux militaires, indistinctement à Saint-Louis des Invalides, après une cérémonie religieuse. Et Napoléon se dit, ah, c'est peut-être un peu trop petit, donc pour mon sacre, on ne le fera pas à Saint-Louis des Invalides. Et donc c'est pour ça que Notre-Dame est choisie pour accueillir les fameux 40 000 invités dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, un mois après, ce 15 juillet 1804, un mois après, le 16 août, le lendemain de son anniversaire, Napoléon va distribuer des Légions d'honneur, cette fois-ci uniquement à ses armées, qui sont, vous le savez peut-être, vous en souvenez, ils étaient installés pour un éventuel débarquement d'Angleterre, ce qu'on appelle les camps de Boulogne.
Oui.
Et donc ça a eu lieu dans la vallée de Terlinghtin. Napoléon distribue des Légions d'honneur à tous ses soldats qui défilent devant lui, du plus modeste sergent jusqu'à ses maréchaux.
Donc tout le monde va avoir une Légion d'honneur ?
Presque tous. C'est-à-dire presque ceux qui sont distingués au combat. Et d'ailleurs, Napoléon avait sa légion d'honneur sur lui, bien sûr, au combat. Et lorsqu'un de ses soldats se distinguait devant lui, s'il n'avait pas reçu la fameuse croix de la légion d'honneur, c'est lui qui lui décernait la sienne directement sur le champ de bataille.
Ah oui, donc ça doit être émouvant pour le soldat en question. Alors, est-ce que ça se passait de la même façon à l'époque, puisque finalement c'est la croix du Saint-Esprit? Non, c'est l'ordre de Saint-Louis.
Alors, c'est les deux. Hein, c'est-à-dire que c'est un mélange des deux, et ensuite la distinction entre la bleue et la rouge va revenir avec le général de Gaulle, qui va créer l'ordre du mérite avec la bleue, effectivement, parce qu'il fallait que l'ordre de Saint-Louis et l'ordre du Saint-Esprit retrouvent finalement leurs accents républicains. Mais pour revenir sur Marengo, cette bataille, effectivement, elle est précédée de ce fameux passage du Grand Saint-Bernard.
Oui.
Eh bien, ce tableau, c'est comme vous l'aviez rappelé, c'est un faux. Parce que Napoléon a passé le col à dos de mulet, mais comme le commanditaire est espagnol, et oui, parce que nous avons fait la paix avec l'Espagne à ce moment-là, ça ne va pas durer longtemps, non. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des navires espagnols qui se battront ensuite à Trafalgar en 1805, eh bien, le roi d'Espagne, Charles IV, a commandé, ou du moins a désiré un tableau qui représente son nouvel allié, et donc Napoléon lui fait envoyer ce fameux tableau du passage du Grand Saint-Bernard. Mais on ne va pas le montrer à dos de mulet. Il faut montrer la gloire des armées, le sacrifice des combattants, et donc, à travers leur chef, c'est aussi une gloire qu'il faut présenter, d'où le fait que Napoléon se trouve à cheval cabré, et qui indique à ses soldats la marche à suivre pour traverser justement les Alpes, comme l'avait fait autrefois. C'est marqué d'ailleurs au pied du cheval. Il y a les deux noms. Oui. À côté de Bonaparte, il y a le nom de Carolus Magnus, Charlemagne, et de Hannibal, bien sûr.
Ouais. C'est absolument génial.
C'est génial. C'est de la communication.
Oh, mais c'est énorme, je veux dire. C'est une propagande incroyable.
Mais Napoléon est un peu déçu d'ailleurs, parce que comme le tableau part à Madrid, où il est destiné justement à faire ce fameux cadeau, il est un peu déçu parce qu'il se dit mais moi, je n'en donnerai pas. Donc, David en est quitte pour faire 4 autres répliques. C'est-à-dire qu'il va faire un tableau pour Napoléon, un pour Joséphine, un pour le château de Versailles qui est devenu un musée déjà à l'époque. Et puis, David va garder le dernier exemplaire qu'il va faire d'ailleurs tourner un petit peu dans des expositions itinérantes et va le garder tant et si bien d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, on raconte que dans son appartement de Bruxelles, David avait en face de sa chambre ce fameux passage du Grand Saint-Bernard. Et pour le distinguer, d'ailleurs, il avait fait des changements dans la couleur de la robe du cheval, dans la cape du personnage et même le visage, pour pas que, bien sûr, on les confonde. Et donc, la première chose qu'il voyait en se levant le matin, c'était Bonaparte à cheval. Et la dernière chose, il saluait le grand combattant avant d'aller se coucher. Ça montre aussi sa fidélité au personnage.
Ouais. Et alors, les autres n'ont pas voulu l'utiliser?
Non.
Pourquoi? Pas le sens de la communication? Ou parce que personnage trop détestable?
Peut-être ça. Mais il y a aussi, tout était dirigé pour que cette communication ait une telle ampleur. Napoléon a eu avec lui les circonstances. Il fallait tout construire.
Oui.
Il fallait marquer les esprits. Oui. Et éviter justement les conflits entre deux moments difficiles, la Révolution et la Reconstruction. Donc il s'est dit, je peux être cette unité. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'attribution particulière. Il venait de Corse. Donc son histoire à lui n'était pas marquée par les débats internes à la France. Donc il a pu régler. Et on verra dans le livre, avec notamment deux constructions de villes importantes, dans cet esprit-là, Pontivy, qui avait été marqué aussi par les guerres pendant la Révolution, le lieu quand même de la chouannerie et surtout de ces moments de la Bretagne soulevée. Et puis l'autre, c'est la Roche-sur-Yon. La Vendée avait été tellement marquée par les conflits que Napoléon met fin à cette lutte avec les Vendéens, avec l'abbé Bernier qui est envoyé comme négociateur. Et donc, pour montrer que la Vendée maintenant fait à part entière partie de la France, eh bien, une nouvelle préfecture est destinée à la place de Fontenay-le-Comte. C'est donc la Roche-sur-Yon qui est instaurée avec une construction un peu à la romaine, c'est-à-dire Cardo et Decumanus, c'est-à-dire vraiment des rues perpendiculaires, très organisées, avec un temple, avec un lycée, avec un tribunal, avec une prison, avec une préfecture. Enfin, tout ça était très bien organisé et de façon tout à fait homogène. Et cette ville de la Roche-sur-Yon, qui s'est appelé longtemps Napoléon, ensuite Napoléon Vendée. Eh bien, cette ville est encore marquée par le souvenir de Napoléon. Et là, en plein centre de sa place, une belle statue qui date du Second Empire, qui a été faite par Nieuwerker, qui était le ministre de la Culture de l'époque, ministre de ce qu'on appelait l'instruction publique.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à faire de jolies villes? Parce que c'est sympathique, La Roche-sur-Yon, je connais bien, mais c'est sympathique.
Napoléon, c'est un... Napoléon, c'est un pragmatique. Ouais. Napoléon, c'est un romain. Napoléon, c'est un bâtisseur. C'est pas forcément un esthète. Il chante faux, il laisse la partie artistique à Vivant Denon, à David, à des gens qui s'y connaissent. Il laisse la décoration à Percier-Fontaine. Lui-même se plaît vraiment dans les endroits. Il adore l'opéra, il adore bien sûr plein de choses. Mais ça n'est pas... Il a été formé dans des écoles militaires.
Oui, pourtant, le Palais du Louvre, honnêtement, ce qu'il a fait est intelligent. C'est... Et la rue de Rivoli est vachement bien.
C'est Percier-Fontaine.
Toute l'idée, c'est lui quand même qui a...
Il a des idées qu'il demande d'adapter et d'interpréter, mais ça n'est pas lui qui les met en scène, ouais. À la différence de Napoléon III. C'est ça qui les sépare. Napoléon III, il a eu le temps, lui, de faire son apprentissage en exil, en voyant ce qui se faisait, ouais. À la fois bien sûr en Suisse, ensuite en Angleterre, il est allé aux États-Unis, il a vu New York, il est allé en Amérique du Sud, il a énormément voyagé, Napoléon III, et donc il s'est fait une idée très précise d'une ville moderne. Et donc, dans l'urbanisme, dans la façon dont il va faire à la fois Paris et les grandes villes de l'époque, il a des idées très précises, et c'est dans son bureau que les décisions se prennent, et là, ensuite, on doit appliquer les décisions de l'empereur, parce qu'il sait exactement ce qu'il a vu et ce qui a fonctionné dans les autres villes. Napoléon III, c'est pas du tout Napoléon Ier. Napoléon Ier, il avait une toute autre idée. C'était un pragmatique. C'est une ville caserne, finalement, La Roche-sur-Yon.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est pragmatique, c'est efficace.
Oui.
Il faut aller à l'essentiel.
Oui.
Améliorer les choses, mais sans forcément faire de l'esthétisme, comme vous disiez.
Je vois les maires ont tous œuvré pour essayer. Là, ça a assez réussi en ce moment. Mais on voit la complexité, on comprend la complexité pour eux de transformer ces villes.
Oui. Ouais. Et dans ces villes, justement, les villes impériales, il y a cette dichotomie entre les villes plutôt marquées Premier Empire et les villes Second Empire.
Complètement.
Les villes Second Empire, il y a cette idée d'amélioration de la vie quotidienne. Oui. Il y a une concentration urbaine du temps du Premier Empire. Le Second Empire veut ouvrir à des espaces verts, on voit bien ce qui a été fait à Paris, hein. On voit bien aussi ce qui a été fait dans les villes de villégiature. On parlait de La Roche-sur-Yon et autres. Ces villes sous le Second Empire vont être énormément transformées avec des espaces verts, avec des parcs, avec des jardins, avec des moments où on essaie d'avoir des ouvriers qui vivent dans des meilleures conditions qu'autrefois.
Je voudrais rappeler vos deux ouvrages. Donc, Jacques-Louis David aux éditions Passé Composé. Vraiment un ouvrage passionnant, ça on le devine avec vous. Et l'autre, Les villes impériales sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III aux éditions Flammarion. Dernière question. Finalement, je suis en train de penser, en même temps que vous me parliez, à ce qu'on fait et au lieu qu'occupaient Napoléon Ier et Napoléon III. Quand on pense à Vichy... C'est une petite maison très simple, finalement.
Il a un chalet. Il vit aussi dans différents lieux en fonction de son entourage. C'est-à-dire que lorsque l'impératrice est là, ça n'est pas la même chose que lorsqu'il vient, entre guillemets, en célibataire. Il fait la même chose à Plombières. Il fait la même chose aussi dans d'autres lieux. Et l'impératrice, la même chose. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que lorsque l'impératrice se fixe un peu mieux à Biarritz, qu'il y aura ce fameux palais. Ce fameux palais que Napoléon III va lui dédier et qu'il fera de manière assez, assez grandiloquente par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer dans un premier temps.
Il est sage par rapport à ce que fait Napoléon Ier.
Oui, mais parce que Napoléon III, c'est un personnage qui vit de son temps. Napoléon Ier est tourné vers le passé. Napoléon Ier veut construire pour des générations. Napoléon III, il veut être moderne. Donc il se dit, les générations qui vont suivre feront autrement. Donc on va construire dans le style d'aujourd'hui.
Intéressant.
Et lorsque d'ailleurs Eugénie visitera le chantier de l'Opéra Garnier, elle sera surprise parce qu'elle verra du style Louis XV, du Rococo, du Louis XVI, du Premier Empire, de la Restauration, même de la Renaissance. Elle dira « Mais Garnier, mais ce n'est pas un style. » Et lui dira « Si madame, c'est ça le style de Napoléon III. C'est l'éclectisme. » C'est-à-dire tous les styles réunis pour justement montrer à la fois qu'on a pris le meilleur de chacun et qu'on est en train d'écrire la synthèse de ce qui a été fait auparavant.
Pour terminer, je vais vous partager un petit sentiment personnel.
Dites-moi.
Vous le savez, je réalise des bals, et le dernier bal des deux empires que nous avons réalisé, nous avons évoqué Louis XVI. Et je me suis dit, Louis XVI dans un décor Napoléon III, mais ça va être horrible, ça ne va pas fonctionner du tout dans le salon opéra réalisé à la demande de l'empereur Napoléon III et inauguré par l'impératrice Eugénie. Mais curieusement, ça fonctionne vachement bien.
Et bien justement,
suite à ce que vous venez de dire.
Parce que j'en ai conscience maintenant. Était une grande admiratrice aussi de Marie-Antoinette. Elle avait des tenues Marie-Antoinette et se rendait compte que finalement, c'était, en dépit de ce qui s'est passé d'un point de vue historique, c'était aussi, on va dire, le symbole de la France esthétiquement la plus aboutie.
Ouais.
Et finalement, ça se retrouve dans le style et dans la... Donc ça fonctionne
très amusant.
Parfaitement.
Oui, c'est très amusant que ça ait fonctionné.
Et les crinolines ne sont pas très éloignées finalement des robes à la bergère.
Oui, de Marie-Antoinette, absolument. Merci beaucoup, David Chantrain. Ce fut un plaisir encore.
Plaisir
franchement,
partagé.
Une heure, ça passe avec vous, ça passe.
Plaisir partagé, Charles Laurent.
Vraiment génial. Un grand, grand merci. Donc, Jacques-Louis David, par David Chantrain, l'empereur des peintres, passé composé, et villes impériales sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III, aux éditions Flammarion. De très belles et passionnantes lectures, vous l'avez compris, pour vous changer les idées pendant cette période de l'été. Merci encore David Chantrain.
Merci Laurent.
Un vrai bonheur. Et nous retrouvons tout de suite après une courte pause.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois, 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française. Libre Journal de la vie française dans lequel nous allons parler d'un tout autre sujet. Ce soir, nous allons parler de la France-Guinée équatoriale, quand la France bafoue le tribunal pénal international. Et pour en parler, je reçois le docteur Jacquinito Maria Alogo de Obono. Je prononce correctement ou pas?
C'est parfait.
Je prononce à l'espagnol.
Absolument,
du coup,
merci Laurent.
Voilà. Alors, j'espère avoir bien intitulé ce moment que nous allons passer ensemble, puisque ce que vous m'avez raconté m'a vraiment impressionné. La France bafoue le tribunal international, ne respecte pas, c'est quand même assez incroyable, la justice internationale.
Alors, est-ce que la France ne respecte pas la décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice ? En réalité, il y a plusieurs nuances. Si tu me permets, mon cher Laurent, j'aimerais bien commencer peut-être par la genèse de cette affaire. Et commençant par la genèse...
Pour pouvoir comprendre absolument.
Pour qu'il soit possible à tes auditeurs de comprendre. Et pour parler de la genèse, j'aimerais bien d'abord, puisque tu me sais fidèle aux citations des Saintes Écritures, te citer ce que disait le trio dans le livre d'Exode, chapitre 23 au verset 8. Il indiquait qu'il n'est pas possible d'accepter pour ceux qui jugent et ceux qui rendent des décisions, fussent-elles judiciaires, de pots de vin, parce qu'elles corrompent les yeux des sages et compromettent les droits des victimes. Et sur cette citation, je crois qu'il est pertinent désormais de comprendre le contentieux. Que s'est-il passé entre la France et la Guinée équatoriale? pour constituer un tout petit peu, la Guinée équatoriale est un pays petit, pétrolier, d'1 200 000 habitants à peu près. Entre les années 85-90, nous n'avions pas de pétrole, nous vivions exclusivement d'agriculture. Et voilà qu'au début des années 90, le pétrole a été trouvé avec cette consigne des Américains, du gouvernement à l'époque, qui indiquait, puisque vous venez et vous êtes en train de vous développer, n'hésitez pas à vous rémunérer sur les contrats. La richesse du pays étant explosée, il aurait fallu que le code pénal soit mis à jour pour intégrer en Guinée équatoriale les infractions notamment de corruption et de blanchiment, d'une part. D'autre part, entre les années 90 et les années 2005, il y a eu plusieurs investissements de la part de la Guinée équatoriale et plus particulièrement du vice-président Théodorine Obiang Nguema, qui est le fils du président de la République de Guinée équatoriale, qui s'avère lui-même être au pouvoir depuis un peu plus de 50 ans. C'est d'ailleurs le plus vieux chef d'État au monde. Ces investissements ont été faits et la justice française, entre les années 90 et les années 2005, s'est interrogée sur la provenance de ces fonds-là. Et ces fonds-là ont acquis un immeuble parisien, 642 Avenue Foch, qui a fait la une des journaux lorsqu'il a été saisi, puisque la justice, saisie par plusieurs associations, Sherpa, Transparency International notamment, et d'autres membres de la société civile, qui estimaient que l'origine des fonds était douteuse, d'une part, et que d'autre part, la France ne pouvait pas accueillir ces fonds-là. Ça, c'est pour l'origine, ou plutôt la genèse de l'affaire. Maintenant, où naît le contentieux? Il y a eu deux présidents de droite, puisque je suis ici dans une chaîne qui est taxée d'être de droite. Mais il y a eu deux présidents de droite. Monsieur Jacques Chirac, qui d'ailleurs, à l'époque, nous avait accueillis lorsqu'on a reçu l'asile politique en France. Et puis, nous avons eu le président Sarkozy, dont nous connaissons le destin qui n'est pas tout à fait très joyeux. À partir de 2007... la justice française s'est intéressée à l'immeuble au 642 Avenue Foch qui avait été acquis, et il n'y a aucun doute puisque ça a été confirmé par la Cour internationale de justice, sans qu'il soit protégé par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, convention qui régule et qui régit les immunités diplomatiques. Alors, l'origine du contentieux, c'est que la France a estimé que l'immeuble a été acquis à des fins personnelles et pour une utilisation personnelle du vice-président de la Guinée équatoriale qui était à l'époque ministre des Mines, et il avait effectivement, et il n'est pas nié, instauré ce qu'on appelle une taxe révolutionnaire. En quelques mots, quelques pots de vin, je vous renvoie, mon cher Laurent, à la citation de tout à l'heure. Cette taxe révolutionnaire de toutes les entreprises américaines, espagnoles et autres permettait de financer le train de vie de Playboy, qu'on pourrait qualifier ainsi, du vice-président. Il a d'ailleurs été condamné aux États-Unis entre les années 2005 et 2008. Il a fait une transaction, il a cédé une villa à Malibu pour 30 millions de dollars notamment. Je reviens à la France et je viens au contentieux, pour ne pas perdre naturellement vos auditeurs. La France a estimé que les fonds ont été acquis par la corruption en Guinée équatoriale, ont été transférés en France pour l'achat de cet immeuble. C'est donc, selon le code pénal français, du blanchiment. L'infraction de blanchiment, pour ne pas être trop technique, c'est une infraction de conséquence. Il faut une infraction principale. Corruption, trafic d'influence, et il faudrait vouloir dissimuler le produit de cette infraction-là, notamment en achetant des montres, des voitures de luxe, en l'occurrence un immeuble. La France a donc estimé qu'il s'agissait de blanchiment. S'agissant de blanchiment, elle a ordonné une saisie qui est tout à fait spectaculaire de l'ensemble de l'immeuble avec l'ensemble des biens mobiliers qui s'y trouvaient. Alors naturellement, ce qu'il est important ici de dire, c'est qu'entre les années 2010 et les années 2012, Théodorin Obiang, donc le vice-président de la Guinée équatoriale, a cédé à l'État équato-guinéen l'immeuble 642 Avenue Foch. Pour une somme qu'on retrouve naturellement dans l'ensemble des actes de la procédure, à partir de 2011, l'immeuble est devenu la propriété de l'État équato-guinéen. Le 13 juin 2016, la Guinée équatoriale a introduit une requête introductive d'instance devant la Cour internationale de justice, demandant à celle-ci qu'elle ordonne à la France de respecter le caractère diplomatique de cet immeuble. Le 29 septembre 2016, la Cour, puis le 3 octobre, la Cour internationale de justice a demandé à la France de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas qu'un jugement au fond, c'est-à-dire le jugement qui a été rendu très récemment, en 2020, pour ne pas qu'il y ait de conséquences graves et irréparables, par exemple une saisie, une confiscation. Toutefois, la France n'en avait que faire, puisqu'elle avait déjà commencé à saisir les biens mobiliers, les voitures, et elle avait déjà saisi l'immeuble. Ce qui fait que tout au long de la procédure devant la Cour internationale de justice, l'immeuble qui abritait la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale était en réalité pas protégé par la Convention de Vienne, mais plutôt protégé par les bons vouloirs du gouvernement français. Toutefois, en 2021, et je crois que c'est le cœur de ce que je souhaite développer ici, en 2021, il y a eu une loi dite de restitution des avoirs issus de la corruption, dite loi Sueur, aux populations victimes. Ça, c'était le 21 juillet 2021. Le 26 juillet 2021, la Cour de cassation a définitivement condamné le vice-président de la Guinée équatoriale pour corruption, trafic d'influence et blanchiment. Mais qu'en vient-il de cet immeuble ? Nous avons appris le 29 juin dernier que la GRASC, donc c'est l'organisme français qui s'occupe de saisir, confisquer et de vendre pour le compte de l'État français les biens, les avoirs qui, naturellement, par décision de justice, proviendrait d'infractions. Mais ici, il y a un triple problème. Le premier problème, c'est que, il est vrai, cette loi du sénateur Sueur permet au législateur français, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement, AFD, et le ministère des Affaires étrangères, de restituer aux populations victimes les fruits, ou en tout cas le produit qui serait issu de la vente.
Oui.
Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, après mon entretien avec le sénateur Jean Perceur, il m'a dit que c'est quand même extraordinaire parce qu'il n'y a pas de mécanisme concret qui permet de restituer, en fait, l'immeuble qui va être vendu. C'est trop tard puisque les dossiers sont terminés depuis le 9 juillet 2026. Et en réalité, nous nous interrogeons sur qui, en tout cas le peuple équato-guinéen, dont je représente modestement les intérêts, qui est-ce qui va acheter cet immeuble ? Va-t-il retourner entre des mains étrangères ? Lesquelles ? Et le fruit...
Le fruit, voilà, va arriver dans les poches de qui ?
Exactement, c'est la question. Il est prévu au sein de cette loi de restitution, oui, aux populations victimes qu'une ligne budgétaire soit ouverte au sein... Alors c'est une ligne isolée au sein du ministère des Affaires et du budget français,
oui, oui, oui,
mais au sein du ministère... Mais c'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas de droit de regard du peuple équato-guinéen, il n'y a même pas de possibilité de faire une offre prioritaire, parce que nous avons des fonds d'investissement, nous avons des membres de la société civile.
Oui, si le gouvernement voulait récupérer.
Si le gouvernement voulait le récupérer, mais il y a deux choses, mon cher Laurent, qui me frappent. D'abord, dans la décision qui a été rendue lors de la condamnation du vice-président pour des faits de corruption et de blanchiment en France, le magistrat du Quai de l'Horloge indique ceci.
Mais il n'est plus ministre.
Il n'est plus ministre.
Il faut le dire.
Il est désormais vice-président.
Ministre,
donc l'ancien ministre, voilà, qui est devenu vice-président, oui, oui, de la République. Oui. Tu as tout à fait raison de faire cette précision. Le magistrat du Quai de l'Horloge indique « Il serait invraisemblable, je cite la décision, que l'État français garde, conserve, le fruit, le produit, l'argent. »
Oui, c'est pas normal.
Qui vient de
cette vente. Surtout qu'il y a une loi qui a été votée, comme vous nous l'avez expliqué.
Absolument. Pour autant, le magistrat ajoute, il n'existe à ce jour aucun mécanisme qui permet d'effectivement le rendre aux populations victimes. Alors là, il faudrait m'expliquer, mon cher Laurent.
Ça veut dire qu'il y a une loi, mais on ne va pas l'appliquer.
Eh bien, j'ai quatre exemples pour toi. Premier exemple.
Je vous arrête deux secondes. Que dit le tribunal, la décision du tribunal international ?
Alors, la Cour internationale de justice disait le 3 octobre 2016, j'enjoins à la France, ou j'ordonne à la France, oui, de prendre toutes les mesures nécessaires. Toutes les mesures nécessaires. Alors, ici, il n'est pas question ici de revenir sur la décision de justice, qui n'est pas critiquable, oui, sauf en droit. Oui. Mais à l'époque déjà, le 3 octobre 2016, les juges de la Cour internationale de justice ordonnaient à la France de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver avant le jugement au fond, les droits de l'État équato-guinéen, puisque il y avait la mission diplomatique qui était de fait à l'intérieur de l'immeuble, mais la France avait procédé déjà aux saisies,
voilà,
non seulement des biens.
Elle
n'a pas respecté.
Elle n'a pas respecté le tribunal international.
Elle ne l'a pas respecté.
C'est quand même assez incroyable.
Eh bien, c'est incroyable. Et j'ajoute, mon cher Laurent.
C'est des états voyous. Entre ça, ce que je viens de dire, et le fait que les fonds. Les produits de la vente visiblement vont être récupérés par l'État français, ça se dirige vers ça. On a un État voyou.
Absolument, cher Laurent, et puis je vais aller plus loin.
Oui.
Dans l'analyse, trois illustrations. Alors, j'aimerais dire à tes auditeurs qu'ils regardent tous cette loi du 21 juillet 2021 dite de restitution des avoirs avec distance et avec antipathie. Puisque si sur le papier il est écrit et des mécanismes existent en réalité, on s'interroge sur leur mise en œuvre, mais ils existent. S'il est écrit que les fruits de la vente retourneront aux populations victimes, en l'occurrence au peuple équato-guinéen, selon quels critères, qui en juge, le ministère des Affaires étrangères et naturellement l'Agence française de développement. Mais on est très loin du droit de regard le sénateur Sueur voulait dans sa loi. Et si je me mets à la place des miens, c'est-à-dire
du
peuple équato-guinéen, nous avons trois exemples qui nous disent que nous n'allons jamais revoir la couleur de cet argent, c'est-à-dire que nous avons été volés deux fois, une fois par le ministre qui est devenu vice-président en détournant les deniers de notre trésor public, une deuxième fois puisque l'État français va vendre l'immeuble, et une troisième fois parce que cet argent ne nous sera jamais restitué. Trois exemples ici très simples. D'abord, en 2008, on indiquait que, en tout cas, l'État irakien indiquait ou sollicitait de la France la restitution des avoirs de Saddam Hussein, d'une part, notamment un yacht. La France n'a jamais rendu. Il a fallu, naturellement, attendre, je crois, fin 2008, entre 2008 et 2010, pour qu'au bout de plusieurs procédures judiciaires, la France finalement restitue un yacht qui n'avait plus beaucoup d'intérêt puisque ça fait très longtemps qu'il n'était plus
attendu.
Absolument. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, dans l'affaire notamment d'Abacha, les avoirs détournés du Nigeria, la France n'a rien rendu, encore une fois. Et puisque il faut toujours un troisième exemple, il y a Encore récemment, dans l'affaire dite des biens mal acquis, puisqu'il y a trois volets, il y a le volet équato-guinéen, il y a le volet gabonais, il y a également le volet congolais, Congo pour le Congo-Kinshasa, puisqu'il faut un troisième exemple, il y a eu des saisies actuellement, sans même que la Cour internationale, par la France,
C'est incroyable.
Mais c'est tout à fait incroyable. Et j'ai pu m'entretenir, sans faire offense ici au secret dont je suis gardien, avec le président de la Commission des Affaires étrangères, Défense et Forces armées du Sénat, les deux d'ailleurs, Monsieur Christian Cambon, honorable, il a toujours répondu à mes sollicitations, et Monsieur Perrin, Cédric Perrin, qui a toujours également répondu à mes sollicitations. Ils indiquaient qu'ils vont interroger la GRASC pour savoir quand est-ce que l'immeuble sera vendu, d'une part, et d'autre part, la possibilité que nous puissions avoir un droit de regard. Je n'ai jamais reçu de correspondance écrite, mais...
Vous n'avez jamais reçu de correspondance écrite vous n'arrivez pas en tant que simple avocat, vous arrivez au nom du gouvernement.
Alors, je ne suis pas mandaté par le gouvernement. Je représente la société civile.
Est-ce que le gouvernement a fait la demande ?
Alors,
non,
il a fait une demande.
Non, vous représentez la société civile.
Absolument.
Oui.
Le peuple équato-guinéen, le gouvernement, c'est une chose. Mais je crois, mon cher Laurent, que c'est la première fois où la société civile équato-guinéenne, on est 1,2 million en tout, dont 350 000 personnes à l'étranger. Restons pas beaucoup de monde à l'intérieur du pays. Mais c'est la première fois que la société civile, les opposants en exil et le gouvernement font front dans ce dossier et peut-être même ensemble et de concert parce que nous nous rendons compte qu'on est en train de nous faire les poches. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait apprécier,
évidemment.
Surtout venant de la France.
Donc la France a fait ça avec le Congo ?
Notamment.
Incroyable. Et fait ça avec d'autres pays. Voilà, avec le vôtre. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui est capable de dire aujourd'hui quand sera la vente et si la vente sera transparente, parce qu'il faudrait pas non plus que le gouvernement français fasse plaisir à un de ses protégés.
C'est une question légitime et qui m'amuse.
On voit bien que la tour Triangle a été construite, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est Monsieur Niel qui,
tout à fait.
Qui en tire les bénéfices. Donc, on voit qu'il y a de la corruption en France.
Mais il y a de la corruption. Il y a de la corruption. Et puisque j'ai la citation facile, Genèse chapitre 12, où Dieu indiquait, il regarda la terre et toute chair avait corrompu sa voie. Et là, nous voyons dans ce dossier qu'il y a un problème de logique et il y a un problème de morale.
Non, il y a un problème de corruption.
Il y a un problème de corruption, naturellement.
Mais comment est-ce qu'on va pouvoir surveiller cet établissement et voir la corruption qu'il y a derrière ? Là, les journalistes devraient se pencher dessus, s'il vous plaît.
Eh bien, non seulement ils devraient se pencher dessus, mais il faudrait également contrôler qui, puisque c'est impossible. Nous avons, avec naturellement la société civile, les membres de la société civile équato-guinéenne que je représente, nous avons sollicité de la part de l'étude de notaire la composition du dossier. Et dans la composition du dossier, les offres sont naturellement anonymes, sous cachet. Et nous n'allons pouvoir savoir, puisque les dossiers, la fin de la remise des dossiers s'arrêtait le 9 juillet, nous n'allons pouvoir savoir en réalité qui a acheté cet immeuble. Peut-être à partir de début décembre, puisque les visites commencent en septembre. Et j'aimerais bien ajouter une petite observation personnelle. Ce qu'il y a de magnifique dans cette histoire, c'est qu'en réalité, cet immeuble-là, j'ai comme l'impression qu'il est déjà réservé à quelqu'un. Je ne peux pas dire qui, mais l'ensemble des intervenants, mes interlocuteurs, et naturellement certains... au plus haut de l'État français, m'ont fait quelques révélations
c'est
que je
incroyable.
Me réserve
on
la
a
possibilité.
Vraiment un gouvernement hyper corrompu, c'est abominable.
Je ne sais pas si le gouvernement est corrompu, mais en tout cas, il y a de fortes indices, il y a de fortes orientations qui suggèrent qu'il ne se comporte pas comme l'indiquait le Très-Haut dans les Saintes Écritures, ça c'est sûr.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse pour que nos auditeurs qui le souhaitent ou les journalistes qui le souhaitent puissent passer devant et prendre conscience de l'importance de l'immeuble et donc de ce que ça représente financièrement ?
Bien sûr. Alors, c'est un immeuble 642 avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble d'un peu plus de 5000 m² qui faisait avant office, c'est d'ailleurs reconnu désormais par décision de justice de domicile personnel de l'ancien ministre devenu vice-président de mon pays d'une part, et c'est à partir de 2010-2011, je m'en souviens à l'époque avoir participé au déménagement, c'est devenu la mission, la représentation diplomatique. Ajoutant ceci, cher Laurent, il est indiqué par l'ambassadeur de France à Malabo, en Guinée équatoriale, et également dans les correspondances que j'ai reçues du président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Il est indiqué que la GRASC était en cours de négociation pour éviter l'expulsion des diplomates, même si l'immeuble n'est pas reconnu et comme ayant l'immunité diplomatique au sens de la Convention de Vienne, il faut dire qu'il y a des diplomates, et eux le sont. Et ce qui... Pardon, Laurent, de le dire, me scandalise, c'est que l'État français menace d'extraire ou d'expulser au besoin les nôtres avec la force publique. C'est du jamais vu dans l'histoire des relations diplomatiques.
Alors, bon, je précise ma pensée, quand je dis il y a de la corruption, le gouvernement est corrompu, il y a de la corruption, visiblement. Est-ce que c'est le gouvernement directement ou pas ? Peu importe, mais la corruption, elle est là, on la devine.
Bien sûr.
Donc
bien sûr.
Voilà, il faudrait que.
Mais c'est pas un fait nouveau.
Il faudrait que nos gouvernants fassent une recherche. Enfin, on peut pas laisser passer ça.
C'est pas un fait nouveau. D'ailleurs, je t'ai porté mon manuscrit de thèse pour que tu puisses lire à quel point en France c'est un phénomène très ancien. Il y avait déjà le scandale à l'époque dans la République de Jules Ferry, le scandale des décorations. Si nous évoquons
non, ça sert à rien, ça. Ouais.
La corruption, nous pouvons penser aussi à Notre-Dame. Très récemment, l'Élysée a été perquisitionnés, alors ils oui. n'ont pas pu l'être parce qu'on avait posé
le
secret ou en tout cas la raison d'État, ce qui est tout à fait légitime et je l'entends, mais il y a en France, même au plus haut sommet de l'État, des éléments qui laissent quand même penser que la corruption est un phénomène qui est quand même un peu plus impliqué que chez nous en Afrique.
Alors pour terminer, pour terminer, je voudrais simplement que vous nous rappeliez la date de la vente.
Alors, les dossiers devaient...
Oui, le on communiqué a compris, de presse, le 9.
Exactement. 29 juin, fin des dossiers, 9 juillet, première visite début septembre, vente effective décembre. J'ajoute, Laurent, et je conclue, qu'à l'intérieur du dossier, il n'y a aucune garantie pour le futur acquéreur d'une éviction. Ça veut dire que l'État français prendra l'argent et, comme Ponce Pilate, se lavera les mains pour la suite.
Merci beaucoup pour ce mot de conclusion.
D'en prie.
Et
merci,
je vous remercie,
Laurent.
Chers auditeurs. À très bientôt sur Radio Courtoisie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la vie française, dirigé par Laurent Poultier du Ménil, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 14 juillet 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr, et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.